Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Immo. Carrément Immo, vous le savez, c'est l'émission hebdomadaire dans laquelle je reçois deux intervenants à chaque fois et avec qui je décrypte les grands enjeux du moment, les grands enjeux sur l'immobilier, sur le logement. Aujourd'hui, justement, on va se pencher sur un enjeu concernant le logement social, c'est le vieillissement de la population, un thème crucial sur lequel nous allons nous attarder avec mes deux invités. Nicolas Brenelec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du secteur logement social chez Alogia, une société à mission spécialiste du bien vieillir. Vous allez nous expliquer ce que vous faites exactement dans quelques instants. Et Virginie Toris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'innovation sociale chez Partenaire Habitat. Alors Partenaire Habitat, c'est un bailleur social du Nord qui place la cohésion sociale et l'accompagnement au cœur de son action. Voilà, vous êtes très impliqués sur le terrain. On va peut-être faire un petit état des lieux. C'est vrai que le vieillissement de la population, bon, on en entend beaucoup parler. Hein. C'est, on va dire, un des thèmes cruciaux des années à venir. Alors, selon l'INSEE, la moitié des ménages locataires du parc social ont plus de 53 ans quand c'est 42 dans le secteur libre. Nicolas, comment on explique cette différence marquée ?
Alors, sans doute par le fait des revenus qui ne sont pas forcément les mêmes. Le logement social a une vocation particulière.
Ouais.
Les retraités, voilà, on connaît le problème peut-être des retraites, alors ça peut s'expliquer comme ça. Maintenant, le vieillissement de la population, ça touche tout le monde. Le logement social, mais absolument tout le monde. C'est un enjeu majeur à l'échelle de la France. Il naît actuellement plus de seniors que de bébés, quotidiennement. Et ça impacte tous les secteurs d'activité. Avec Alogia, en fait, nous, on a vraiment mis en place tout un système de solutions qui permet réellement d'accompagner le logement social face à cette transition démographique qu'on est en train de subir.
Alors, on va en parler dans quelques instants. Du côté de Partenaire Habitat, alors déjà, vous vous êtes implanté où ? Parce que dans le Nord, bon, c'est assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous dire les villes, les métropoles dans lesquelles vous êtes implanté ? Et puis, comment aussi si vous constatez ce vieillissement du parc social sur le terrain.
Okay. Alors, Partenaire Habitat, c'est un bailleur social qui est implanté effectivement dans le département du Nord depuis plus de 100 ans.
Ouais.
Donc, c'est un bailleur social qui est né de la volonté politique du Conseil Général à l'époque de créer un bailleur à l'issue, on va dire, de la Première Guerre mondiale pour reconstruire.
D'accord.
Voilà,
ouais.
C'est ça l'origine de Partenaire Habitat. Donc on est un office public HLM.
D'où cet ADN assez social,
ça,
assez engagé.
D'autant que notre collectivité donc de rattachement, qui est toujours la même aujourd'hui, ouais, hein, c'est le département du Nord,
ouais,
il est l'acteur principal des politiques sociales.
Bien sûr.
Est le pilote des politiques sociales sur son territoire. Donc on est implanté sur le département du Nord, je vous dis, depuis plus de 100 ans. Et par ailleurs, on a fusionné avec un autre office public, celui de Saint-Quentin, il y a maintenant 4-5 ans. Et donc, on est aussi implanté dans l'Aisne depuis 5 ans.
D'accord. Donc, vous êtes assez présent, en tout cas, dans cette région. Et alors, concernant le vieillissement, c'est vrai, du parc social, des locataires, en tout cas.
On suit le même phénomène de société. Hein, c'est, y a eu le baby-boom, on a le papy-boom, sans surprise. Et nous, dans nos logements, aujourd'hui, on constate 20% de seniors de plus de 60 ans. Et là, pour le coup, ça dépend des territoires. Évidemment, vous me demandiez dans quel territoire, donc le Nord. Donc, sur la Mel, on n'a pas le même effet que sur le Dunkerquois ou sur le Maubeugeois ou encore Saint-Quentin. Saint-Quentin étant, j'allais dire, en tête de pont, puisque là, on constate 30% de locataires de plus de 60 ans.
D'accord. Oui, c'est en fonction des régions, forcément.
Je mettrai un petit élément supplémentaire dans les explications. C'est que nous, notre parc, il date, puisqu'on a été créé il y a plus de 100 ans.
Oui.
Il date essentiellement des années 70-80, ce qui peut aussi expliquer qu'on ait beaucoup de locataires qui sont arrivés chez nous dans les années 70-80 et qui aujourd'hui vieillissent chez nous, dans nos logements.
Ils sont restés dans leur logement.
C'est ça. Exactement.
Oui, exactement. Depuis un petit moment.
Je pense que c'est un élément complémentaire.
Mmh. Alors, il y a aussi un chiffre qui est assez parlant. 92% des seniors souhaitent vieillir à domicile. Alors, ça varie même en fonction des études. Hein. Ouais. Sur certaines études, j'ai regardé, c'est même 95, voire 98%.
Bon, je ne comprends pas que ce ne soit pas 100%.
Ouais. Ouais.
Ouais. Moi, personnellement, je préfère vieillir chez moi.
Ouais. Surtout, vu les scandales qu'on a entendus, on taira les noms. Mais,
alors, chez toi, ça peut être dans une résidence senior avec service adapté, mais en autonomie.
Ouais.
Pas en EHPAD, pour être clair.
Ouais, ouais. Ouais. Et alors justement, comment les bailleurs s'adaptent à cette transition démographique? Quelles innovations, on va dire, pour mieux repérer les fragilités, pour faire de la prévention? Comment on bâtit une stratégie pérenne?
Mais c'est exactement ça l'enjeu. On a ces constats, on les partage tous. Et aujourd'hui, comment on fait pour mieux accompagner nos locataires seniors qui, nous, on est concernés aussi. Hein. Ouais. Mieux accompagner nos locataires seniors pour qu'ils vivent bien chez eux et en bonne santé. C'est le titre de notre action. Et donc, il y a 2 ans, on a rencontré Alogia et un autre partenaire qui s'appelle Uned, qui est une start-up, enfin, à l'époque était une start-up, aujourd'hui est une entreprise qui travaille dans le champ, le même champ évidemment, du senior, de l'aidant et de la santé. Et donc, moi, en rencontrant ces acteurs-là, on s'est dit, il y a peut-être une stratégie à quelque chose à expérimenter ensemble. On a chacun nos compétences, nos expertises. Pourquoi ne pas les mettre en commun pour avoir une action qui soit beaucoup plus globale et qui permette de traiter l'ensemble des difficultés que peut rencontrer un senior dans nos logements, mais aussi dans son environnement, dans son quartier, pour ne rien laisser de côté. C'est-à-dire que moi, en tant que bailleur, j'ai une vision très technique. Je sais gérer, je sais faire des réparations, je sais même adapter un logement. Mais j'ai besoin d'abord de les repérer, d'avoir des conseils sur l'adaptation. Et j'ai besoin aussi d'avoir une aide sur la santé. Moi, je ne sais pas, une personne âgée n'a pas de médecin, par exemple, je ne vais pas aller lui en trouver un. C'est pas mon job.
C'est pas votre rôle.
Et j'ai pas le temps. Ouais. J'ai d'autres missions à réaliser. Et donc, c'est là qu'on est complémentaires et c'est là qu'on peut intervenir. C'est-à-dire ne pas laisser de côté une difficulté qu'on aura rencontrée et à laquelle on ne sait pas répondre nous-mêmes, qu'on n'a pas le temps de traiter. Parce qu'on n'a pas la compétence.
Alors c'est là où vous intervenez, Nicolas. Alors société à mission. Est-ce qu'on pourrait rappeler à nos auditeurs ce que ça veut dire société à mission?
C'est un statut officiel, c'est inscrit dans nos statuts et en fait ça met en valeur, ça récompense notre raison d'être qui est d'innover pour allonger l'espérance de vie en bonne santé, sous-entendu des seniors et à domicile. Donc on lutte au quotidien pour cette mission. Oui.
Ouais. Et alors justement, donc vous avez des innovations, dont une dont on va parler plus en détail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez développé justement ce côté-là?
Notre cœur de métier historique, en fait, si vous voulez, quand on a été créé, c'était une approche humaine. Ouais. On le fait toujours, hein, notamment avec Partenor, par le biais de diagnostics à domicile réalisés par des ergothérapeutes. Donc c'était vraiment, et c'est toujours une mission importante, puisque ça nous permet de rentrer en contact, de faire des préconisations instantanées avec le senior pour lui permettre notamment d'avoir toutes les données pour conserver son autonomie ou être plus autonome instantanément chez lui. Et ensuite, on fait des préconisations également auprès du bailleur pour lui permettre de prendre tel ou tel type d'action pour de l'adaptation de logement. Sauf qu'il y a 18 millions de seniors en France. On ne peut pas réaliser 18 millions de diagnostics ergothérapeutes. C'est pas possible.
Un ergothérapeute, c'est quoi, juste pour nos éditeurs qui ne connaissent pas?
C'est un professionnel de santé qui va étudier. Alors nous, chez nous, ils sont orientés plutôt seniors, parfois handicap, et ça permet en fait de faire de l'adaptation du logement au regard des pathologies actuelles ou en devenir dans un scope de prévention pour justement permettre que l'environnement du senior soit adapté et puisse préserver son autonomie. Le but, c'est de pouvoir retarder au maximum l'événement de rupture qui est souvent une chute, mais ça peut être un autre type, comme un problème de santé, qui va amener le senior à devoir quitter son domicile.
D'accord. Et vous avez un réseau, je crois, de 2500
2500 sur toute la France. Donc ça nous permet d'intervenir partout, y compris en Outre-mer, très rapidement. Et donc on fait cette prestation tant par présentiel, c'est-à-dire directement dans le logement, où on peut massifier aussi les campagnes en faisant des campagnes d'appel, toujours menées par nos ergothérapeutes pour faire de la prévention à plus grande échelle. Mais même par téléphone, cette échelle n'est pas réaliste. Humainement, financièrement, personne ne va financer 18 millions de diagnostics tous les ans. Idéalement, il faudrait le faire très régulièrement parce qu'une situation personnelle peut évoluer. Donc on a, dès 2020, réfléchi à une solution technologique. On s'est dit, si l'humain ne peut pas remplir en fait la mission que l'on a, c'est-à-dire par rapport au vieillissement de la population, la technologie doit pouvoir nous aider. Et donc, on a mis en place une solution qui s'appelle RevealCare, qui est en fait une solution prédictive qui permet, par le biais de l'intelligence artificielle et qui s'appelle le Big Data, donc c'est toute l'open data, la data publique disponible en France, d'avoir à la fois un observatoire du bien vieillir, qui permet vraiment de comprendre les spécificités de son territoire, et en injectant de sa propre donnée, c'est-à-dire un bailleur peut à des locataires, il va pouvoir injecter un peu de données provenant de son parc immobilier et de ses locataires.
Alors justement, c'est quoi cette donnée ? Parce que c'est quoi quand on parle de data du...
Alors c'est de la donnée qui va bien sûr respecter la RGPD, donc la loi de protection de données, qui consiste en minimum âge, sexe et adresse.
D'accord.
Pour les seniors.
Donc à telle adresse, on a tant de personnes qui ont tel âge.
Alors non, on va pouvoir segmenter et prioriser les seniors.
D'accord.
Donc il nous faut pour ça simplement l'âge, le sexe et l'adresse des personnes. Et on peut aussi prioriser le patrimoine. Ouais. Et là, il nous faut simplement l'adresse. S'il y a des données complémentaires, on va prendre. Et en fait, on va venir croiser tout ça. Et c'est l'algorithme qui va le faire. On va croiser tout ça avec 1,5 milliard de données qui sont à l'intérieur de la solution pour pouvoir ensuite avoir une vision très précise, instantanée et éclairée sur les fragilités du public senior. C'est-à-dire qu'on est capable de les classer en 4 niveaux d'intervention, de priorité d'intervention, de risque de fragilité pour pouvoir économiser ses ressources et pouvoir contacter et agir pour les seniors qui vont être les plus fragiles en priorité et en première intention.
Donc les plus vieux, pas forcément.
Non, pas du tout. Non. C'est loin. C'est toute l'intelligence de la solution Reveal Care, c'est-à-dire qu'on ne se base pas sur l'âge. L'âge, c'est à peine la partie visible de l'iceberg. En fait, le vieillissement d'une personne, c'est à la fois sa trajectoire de vie et son environnement. Et ça, c'est pas la science allogia, c'est la science tout court, puisque c'est les conclusions de l'Assemblée mondiale de la santé, donc de l'OMS, 194 pays signataires qui ont défini en fait 6 déterminants, 6 dimensions à explorer pour savoir si une personne est capable et apte à bien vieillir. Et donc il va y avoir des déterminants personnels, déterminants de santé, des déterminants
alors
économiques.
Alors c'est quoi par exemple les déterminants ? Vous pouvez nous les citer ?
Je suis en train de les citer.
C'est quoi ? Mais plus concrètement
Alors plus concrètement, on va regarder le parcours de soins, on va regarder les prévalences de certaines maladies sur le territoire, on va regarder les fragilités économiques et on va regarder aussi les habitudes de vie, on va regarder la fragilité numérique, le parcours résidentiel, etc., etc. En fait, on va regarder tous les services essentiels de proximité aussi. Et en fait, en croisant, on va faire plus de 8 millions de points de contrôle sur chaque senior. C'est colossal. Et ça nous permet, en fait, in fine, d'avoir une note sur chacun des 6 déterminants pour chacun des seniors qui va donner un score final en termes de fragilité, de risque de fragilité.
D'accord.
Sur cette personne.
Oui. Donc, par exemple, si la personne est isolée, si elle n'a pas un super parcours de soins, y a une alerte. Et concrètement, après, une fois que on détermine les personnes les plus fragiles, qu'est-ce que fait le bailleur ?
C'est la bonne question. Nous, ça nous permet de repérer justement les publics les plus fragiles.
Ouais.
C'est une échelle, une graduation de 1 à 4, très très simplement pour nous. C'est concrètement, c'est ça.
Donc 4, c'est les plus fragiles, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais.
Non, c'est les 1. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut cibler, nous, des opérations que l'on va mener avec des partenaires, parce que c'est ça le job. Ouais. On ne fait pas tout seul, vous l'avez bien compris, loin de là. Donc, on va faire appel à des partenaires qui sont des partenaires locaux, avec lesquels on va pouvoir convenir d'une action, par exemple sur l'isolement. Voilà. On sait que dans ce quartier-là, dans ces tours-là, dans cette entrée-là, on a des publics qui sont isolés. Et donc, on va les mandater quelque part et on va travailler ensemble. Donc, on va communiquer, nous, auprès de nos locataires, par voie de SMS, par voie d'affichage, pour leur dire qu'il y a telle association qui va venir dans le quartier, qui va venir taper à leur porte pour établir un questionnaire, par exemple, ou pour prendre contact avec eux directement et leur proposer des choses, c'est-à-dire de sortir et de reprendre un lien social dans le quartier. Et donc, ça va nous permettre de cibler. Plutôt que de se dire, je sais qu'il y a beaucoup de seniors là, je vais pouvoir cibler une entrée.
Bien sûr.
Je sais, par exemple, que j'ai 10 seniors dans cette entrée-là. Ouais. On ne donnera pas les noms et prénoms toujours pour les mêmes raisons de confidentialité et de protection des données personnelles, mais on dira, il y a 10 seniors dans cette entrée-là.
Donc ça vous permet d'affiner votre stratégie.
Exactement.
Quoi.
Ouais. Plutôt que d'y aller comme ça, un peu au hasard et au feeling, j'allais dire. Ça nous permet de cibler. Ça, c'est une des actions qu'on peut mener avec cet outil-là. Mais au-delà de ça, cet outil, je pense qu'il nous sera aussi utile pour déterminer notre politique et notre stratégie de patrimoine, notamment en termes de... puisqu'on est aussi un constructeur, on construit du logement, on réhabilite du logement. Et donc de pouvoir affiner aussi, à partir de données objectivées, telle résidence senior, par exemple, je peux la construire, mais à tel endroit. Ou si je la construis là, il faut que j'amène des services. Mmh. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi travailler avec les collectivités.
Donc
avec
le potentiel de la
zone. Je vais pas dire je peux pas le faire là parce qu'il y a pas, par exemple, de transport en commun. Je peux le faire là, mais il faut que j'amène du transport en commun. Et donc travailler avec les collectivités
en fait,
pour voilà. Ça va beaucoup plus loin que je construis.
Oui, c'est, vous êtes aménageur ou
on construit.
Vous êtes promoteur, constructeur.
On construit du logement pour nous, hein, pour notre compte évidemment, puisqu'on on a du patrimoine qu'on construit.
D'accord.
On gère l'existant, en fait, on construit, on grossit d'année en année quelque part. Aujourd'hui,
mais du
on
coup,
est
si
à 54
000 logements. Si vous pouvez intervenir au niveau des transports en commun,
c'est avec les collectivités.
D'accord.
Mais c'est, on ne détient pas ce pouvoir-là, j'allais dire quelque part. Mais
d'aménageur, non, mais
un maire, pour être très concret, un maire qui va nous solliciter pour étudier la faisabilité, on va lui amener les éléments. Rivolcare va nous permettre d'objectiver, comme je vous le disais, d'avoir une étude en fait. Très objectif des éléments
terrain,
clés et de dire oui, ok, c'est très bien, on est à la campagne par exemple, puisqu'on a de la ruralité aussi hein, dans nos territoires. C'est très bien, mais il va manquer, je sais pas, un boulanger, un service de nécessité, de première nécessité. Comment on fait pour amener ce service à proximité ou de la mobilité, parce que c'est souvent ça, les difficultés qu'on peut rencontrer, notamment en ruralité.
Alors aujourd'hui, c'est un partenariat, hein, c'est ça qui vous unit. Comment vous vous rémunérez?
Tout simplement à la prestation, c'est-à-dire qu'on a, un partenariat qui est construit autour de plusieurs axes. On a l'axe mené par les ergothérapeutes. C'est d'abord par là, par lequel on s'est connu, on a commencé. Et vient s'ajouter.
Donc les ergothérapeutes font payer une prestation et ils vous versent une partie
Non, on a une convention entre nous, en fait, et voilà, on définit un volume au démarrage, une durée, et en fait, c'est un partenariat très classique. Hein. Et au-delà de ça, Rivilcare, notre nouvelle solution qui est donc sortie sous forme de logiciel seulement en novembre dernier, vient s'ajouter, vient compléter, vient renforcer la stratégie.
Donc c'est une offre en fait globale
On a deux conventions.
Voilà.
On a notre convention d'origine, si je peux me permettre, juste sur effectivement l'utilisation, les services d'Allogia en termes d'ergothérapie. Et on a une deuxième convention avec le nouvel outil qui vient d'être développé et mis sur le marché quelque part, auquel on a adhéré nous pour un an en expérimentant justement parce que c'est tout nouveau. Effectivement, il y a énormément de données, mais maintenant, comment on l'utilise et comment on s'en sert au service de nos locataires, hein, puisque c'est quand même ça l'enjeu, et au service de notre programmation en termes de stratégie de construction et de développement. Non seulement de logement, parce qu'on peut aussi réhabiliter du logement, et donc se dire, quand je réhabilite du logement, puisque j'ai un besoin que j'ai recensé à cet endroit-là, en termes de seniors, eh bien, je vais faire tout de suite du logement qui soit adapté.
Oui,
non seulement je vais faire une réhab thermique, par exemple, parce que c'est un gros sujet en ce moment, mais en même temps, je vais me préoccuper de l'adaptation du logement pour qu'il soit adapté aux personnes vieillissantes.
Vous travaillez avec combien de bailleurs?
Une centaine, actuellement.
D'accord, il y a Action Logement aussi.
Beaucoup Action Logement. En fait, à Logia, dans nos activités, on a différents pôles. On a les ergothérapeutes, on a Rivilcare, et on a aussi un pôle recherche et développement, conseil stratégique. Et on est le co-constructeur de la politique senior du groupe Action Logement. C'est-à-dire qu'on les accompagne encore plusieurs années sur la mise en place de leur stratégie.
Caisse des dépôts aussi.
Caisse des dépôts, oui. On a d'ailleurs mené alors sur des précédentes versions de Rivilcare qui étaient plus sous forme d'études avec des livrables à la clé, on a mené quelques études Rivilcare pour des bailleurs de la Caisse des dépôts. Habitat Réuni, enfin voilà, et puis des OPH, enfin voilà, OPH, ESH, on a à peu près une centaine de partenaires actuellement. Oui.
Est-ce qu'on peut parler peut-être sur le long terme, question stratégie, quelles sont les erreurs justement à éviter, les erreurs à ne pas commettre pour, dans cette stratégie toujours concernant les seniors?
Mais c'est de se disperser. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir, je reprends mon exemple du maire, hein, mais c'est symbolique. Enfin, ça illustre bien les éléments ou les pièges, comme vous dites. C'est-à-dire quand il y a une volonté politique et qu'on fait appel à un bailleur pour construire, par exemple, je reprends mon exemple de la résidence senior, est difficile de lutter, j'allais dire quelque part. Mais là, avec ces outils qu'on est en train de développer ensemble et de tester. Je pense qu'on va avoir des moyens en fait de pouvoir aussi mieux cibler. Mieux, comment dire, mieux cibler là où on va aller mettre de l'offre, là où il y a un besoin.
Ouais.
Et pas simplement parce qu'il y a une volonté politique
derrière.
Pas au hasard. Voilà,
ouais,
au hasard.
Ouais.
Donc pour moi, l'erreur à ne pas faire, c'est ça.
Ouais.
C'est de développer de l'habitat senior à tout va, là où c'est pas nécessaire, ou là où il n'y a pas de besoin, là où dans... Alors un bailleur social, la particularité, c'est qu'on a des prêts sur 40 à 50 ans.
Ouais, ouais.
Hein, et donc, voilà, il faut qu'on ait cette stratégie et une vision à cette échelle-là.
Mmh.
Si moi, dans 10 ans, la résidence senior, elle est vide, c'est pas jouable, c'est pas économiquement viable. Et donc, du coup, c'est en cela qu'il faut éviter. Enfin, voilà, les pièges à éviter, c'est ça.
Ouais. Mmh. Éric Vilker permet, en fait, justement, je complète, sur la partie prédictive de l'outil. Parce que j'ai parlé un peu beaucoup de la partie segmentation du public senior, mais on a aussi la segmentation du patrimoine et on a tout un observatoire du bien vieillir qui permet justement de ne pas poser un projet immobilier au doigt mouillé, mais vraiment d'avoir une vision claire des besoins actuels du territoire, tant sur le parcours de soins, sur les services essentiels de proximité, la typologie d'habitat, et d'avoir des projections à horizon 2030, 2050 et même 2070 sur certains indicateurs pour justement, si un maire vient consulter un promoteur, un bailleur, lui dire j'ai beaucoup de seniors, il me faut ma résidence senior ou une résidence autonomie, de pouvoir travailler le projet et de voir s'il y a une vraie pertinence de l'offre sur ce territoire.
Et ça nous permet aussi de diversifier l'offre. Je parle beaucoup des résidences seniors, mais on a aussi, et on a parlé, c'est essentiel, que les personnes aujourd'hui veulent vivre à domicile le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions.
Ouais.
Je pense qu'il faut pas aussi, il faut développer plusieurs produits quelque part, qui soient adaptés à la volonté et à l'envie
et alors justement,
de nos futurs seniors.
Quoi ressemblera le logement social du
ça,
futur
en fait.
pour les personnes âgées?
Je pense qu'on aura un panel, on l'a déjà.
Ouais.
On l'a déjà, mais le développement de ce panel de solutions, adapté aux différents profils des seniors, c'est là-dessus qu'il faut aller.
Mmh.
Vous avez l'habitat classique, évidemment, mais jusqu'à la résidence senior et l'EHPAD, parce que je pense qu'on ne s'en passera pas non plus de l'EHPAD. Mais entre deux, on a une gamme de produits divers et variés. On développe beaucoup d'habitats inclusifs. On développe beaucoup aussi, en tout cas, on y travaille. C'est moins évident, c'est la colocation intergénérationnelle.
Oui.
C'est moins évident.
C'est un concept. Ouais, ouais, bien sûr.
Ouais.
Sur le papier, c'est très bien, mais
voilà. C'est compliqué à mettre en place.
Ouais.
Mais je pense que c'est quelque chose qui, alors pour une frange peut-être infime de la population, mais c'est ça aussi. Un bailleur social se doit aussi de pouvoir, je pense, diversifier son offre et même pour une petite frange de la population pouvoir proposer des produits qui sont adaptés. Exactement.
Pour finir, si vous aviez un message à faire passer aux décideurs publics, aux collectivités, bon, aux maires, il y a les élections l'année prochaine, quel serait-il ?
Vaste sujet. Nous, notre volonté, c'est vraiment de pouvoir agir en prévention. En France, on a vraiment une vision plutôt curative. Juste pour donner un dernier chiffre, en fait, les premiers problèmes de santé, en général, arrivent vers les 76 ans. Problèmes graves qui peuvent entraîner une perte d'autonomie et donc peut-être de devoir quitter son logement. Mais les premiers travaux, en moyenne, d'adaptation de logement, c'est 82 ans.
D'accord.
Donc il y a en fait un décalage.
6 ans, quoi.
Et on a tendance en France à travailler plutôt en curatif quand il est déjà un peu trop tard. Et nous, toute notre mission, c'est vraiment de faire changer les mentalités, de passer vraiment sur un mode préventif et de pouvoir accompagner en fait les décideurs sur vraiment une... changement de mentalité et de pouvoir mettre en place tout un tas de solutions à destination des seniors pour leur faire gagner des années de vie en bonne santé. Donc c'est notre volonté.
Pour nous, c'est un peu la même chose. Hein. C'est effectivement la prévention, c'est une évidence, plutôt prévenir que guérir, hein, comme on dit. Mais là, l'idée, pour nous, partenaires Habitat, c'est de pouvoir travailler justement et démultiplier un peu les partenariats. Quand je dis démultiplier, c'est pas forcément en termes d'acteurs, hein, mais c'est en termes d'échelle.
Ouais.
Aujourd'hui, on arrive à toucher, avec notre expérimentation, 2500 seniors sur notre patrimoine, alors qu'on en a 20 000, sur les 3 ans. J'aimerais changer d'échelle et de pouvoir proposer cette offre de service, hein, le service qu'on propose avec Alogia et avec Ened. C'est, je vous l'ai dit, une vision à 360 de l'ensemble des problématiques que peut rencontrer un senior, que ce soit en termes de santé, en termes social, tout simplement, précarité pécuniaire, et ou en termes de logement, donc adaptation ou travaux qui nous reviennent de maintenance. Mais l'idée, c'est cette vision à 360, elle n'est possible que s'il y a des acteurs tels que vous avez là, plus Annette qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un acteur aussi qui est important dans notre dispositif, et un acteur de l'isolement. Parce que l'isolement, c'est aussi une problématique que rencontrent nos seniors, en de moindre mesure. Hein. Mais là, pour le coup, il faut un acteur hyper local qui puisse aller à domicile et, aller rencontrer nos seniors. Ouais. Et donc ça, ça demande un peu d'argent, tout simplement. Et on se charge de la coordination, ça marche très bien entre nous. Mais on a besoin d'avoir un soutien financier pour développer ce type de partenariat qui ont démontré leurs preuves sur les 2500. Alors, on a touché aujourd'hui 1500 locataires. On est en train de terminer notre opération cette année avec 1000 locataires nouveaux. Sur les 1500 locataires, il y a quand même 40% de ces locataires qui ont eu un accompagnement complet.
D'accord.
Quelles que soient leurs difficultés.
Ouais.
Et bien sûr, parfois, ils cumulent des difficultés.
Donc, c'est un bon score.
Je trouve que notre énergie, elle n'a pas été dépensée pour rien. Et nos financements aussi, parce que ça nous a coûté... en tout cas, on estime le coût à 330 000 euros pour 3 ans.
D'accord.
Donc on est allé chercher des subventions. Quand je dis on, c'est moi avec mes petits bras musclés. Auprès de la CARSAT notamment, qui est aussi un partenaire important. Et du FSI, le Fonds Solidarité et Innovation, qui est porté par la CG2LS, notre caisse de garantie des logements sociaux. Je suis allé chercher des financements, mais aujourd'hui, je dirais que c'est moite-moite. Moitié de subventions, moitié fonds propres de partenaires habitat.
En tout cas, vous êtes un bailleur engagé. Vous êtes là plus qu'engagé. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Et
j'aimerais qu'on change d'échelle. Voilà. Mon ambition à moi,
c'est
d'avoir un modèle économique qui nous permette de changer d'échelle. Et j'ai 20 000 locataires seniors aujourd'hui. Ouais. Demain, j'en aurai plus encore, on le sait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 20%. Dans quelques années, j'en aurai 25%, très certainement. Il faut pouvoir non pas faire un one shot comme on dit,
une
vraie action,
une vraie stratégie
qui rentre dans notre stratégie globale et notre politique sociale.
Merci beaucoup à vous deux, vaste sujet mais très intéressant. Merci Virginie Toris, merci Nicolas Brenelec pour cette émission, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carrément Immo.